Alors, on est sur le point de faire ce qu'on fait chaque dimanche dans cet endroit. On va lire un texte biblique. Je vais prier et ensuite on va essayer de voir ce que le texte qu'on a lu veut dire et quelle leçon on est censé en tirer. Et vous, peut-être aussi, êtes-vous sur le point de faire ce que vous faites chaque dimanche à ce moment du culte? Vous allez peut-être commencer à faire des petits dessins ou des gribouillis sur les feuillets du culte pour faire passer le temps. Ou peut-être que pendant la prochaine demi-heure, vous allez faire une analyse méthodique de la coiffure et de l'habillement des personnes assises devant vous. Peut-être que vous allez plutôt, comme chaque dimanche, faire votre petite sieste le plus discrètement possible en faisant semblant de prier ou je sais pas, ou de vous concentrer. Peut-être que, comme d'habitude, vous allez passer en revue tous les défauts du prédicateur. Ses mimiques, ses fautes de français, ses erreurs de conjugaison, ses lapsus, ses approximations théologiques, etc. Ou peut-être encore que vous allez écouter attentivement, comme chaque dimanche, en vous disant: eh bien, j'espère qu'un tel est en train d'écouter parce qu'il a vraiment besoin de mettre de l'ordre dans sa vie, celui-là. En fait, est-ce qu'il y a une bonne façon d'accueillir l'enseignement de la Bible? Et si oui, est-ce que c'est votre façon de l'accueillir? Est-ce que c'est ainsi que vous l'accueillez, l'enseignement de la Bible? Dans le texte qu'on est sur le point de lire, en fait, Jésus va conclure son fameux sermon sur la montagne. Ça fait plusieurs semaines, en fait, qu'on s'intéresse à ce sermon de Jésus, dans le cadre donc de notre série de messages consacrés à l'évangile selon Matthieu. Si vous avez raté les épisodes précédents, vous pouvez les écouter en replay sur le site de l'Église. Et qu'est-ce qu'on a vu jusqu'ici? On a vu notamment que Jésus était venu conformément à des promesses millénaires pour restaurer la relation du monde avec Dieu en établissant ou en rétablissant son royaume sur la terre. Et ce royaume, il en a été question sous l'expression « le royaume des cieux » dans cet évangile. Et dans ce royaume, tout ça on le sait parce qu'on a, on a écouté les prédications précédentes, il y a dans ce royaume la consolation, le pardon, la justice, la paix, la vie éternelle. Et franchement, ce sermon sur la montagne, en réalité, c'est un sermon sur le royaume. Un sermon de Jésus où il va décrire ce qui caractérise ce royaume, et notamment ce qui est censé caractériser les sujets du royaume, c'est-à-dire les croyants, ceux qui sont attachés à Jésus, ceux qui suivent Jésus. Et on a pu voir notamment qu'il était censé y avoir dans le royaume des différences importantes, voire parfois radicales, entre comment ça se passe dans le royaume et comment ça se passe à l'extérieur du royaume. Et donc Jésus ici approche de la fin de son discours, hein. Il a commencé au chapitre 5, on est au chapitre 7 et il va finir là dans ce chapitre. Et la question que tous les auditeurs attentifs commencent à se poser à ce moment-là de sa prédication, de son sermon, c'est la suivante. Mais comment entrer dans le royaume? Et comment prendre part à tous les bienfaits du royaume? Comment? Et Jésus va donc amener son auditoire ici à comprendre comment il faut accueillir son discours et par extension comment il faut accueillir tout l'enseignement de la Bible de façon à ce que ces enseignements produisent leur effet salutaire dans notre vie qui consiste à assurer à leur destinataire, à nous donc, une place dans le royaume. Et finalement, ce qu'on va voir, c'est que tout le monde peut entendre les enseignements de la Bible, mais seuls les gens qui les accueillent avec une vraie foi, en reçoivent en fin de compte tous les bienfaits. Tout le monde peut entendre les enseignements de la Bible, mais seuls les gens qui accueillent ces enseignements avec une vraie foi en reçoivent en fin de compte tous les bienfaits. Et donc vous allez voir que la façon dont vous accueillez l'enseignement de la Bible, aujourd'hui encore, et tous les dimanches, eh bien, cette façon dont vous accueillez l'enseignement de la Bible, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Est-ce que vous accueillez cet enseignement avec une vraie foi? Voilà la question que nous devons nous poser ce soir. Et c'est la question que Jésus veut que son auditoire se pose au moment donc de conclure son fameux sermon sur la montagne. Il va décrire la vraie foi, vous allez le voir dans la lecture, il va décrire la vraie foi par ses fruits ou par ses symptômes qui se manifestent premièrement dans notre cœur, deuxièmement, dans notre croyance, et troisièmement, dans notre conduite. Alors, lisons le texte, c'est Matthieu chapitre 7, je l'ai dit, et on va lire le chapitre en entier. C'est Jésus donc qui est en train de parler ici. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera, de la mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment dis-tu à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, alors que dans ton œil il y a une poutre? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent pour vous déchirer. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel homme parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quiconque vous dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons chassé des démons? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Quand Jésus eut achevé ses discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité, et non pas comme leur scribe. Voilà pour la lecture de la parole de Dieu. Prions. Seigneur, merci encore infiniment pour ta parole, merci d'avoir daigné te faire connaître par le moyen de ta parole, et de façon suprême par le moyen de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, ouvre nos oreilles maintenant, ouvre notre cœur, rends-nous attentifs à ta voix, rends-nous réceptifs à ce que tu veux nous enseigner et transforme-nous sous l'effet de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Donc, tout le monde peut entendre les enseignements de la Bible, mais seuls les gens qui les accueillent avec une vraie foi en reçoivent en fin de compte tous les bienfaits. La première chose que ce texte nous fait comprendre, me semble-t-il, versets 1 à 12, c'est que l'enseignement de la Bible est bien accueilli quand il est accueilli par un cœur sincère et contrit. Par un cœur sincère et contrit. On a l'impression, au début en tout cas du passage que j'ai lu, versets 1 à 12, que Jésus évoque plusieurs choses un peu pêle-mêle, qu'il aborde plusieurs sujets un peu pêle-mêle, comme s'il ajoutait une catégorie divers à la fin de sa prédication, à la fin de son sermon. Ou plutôt avant de conclure son sermon. En réalité, il me semble que Jésus soit ici en train de décrire par ses fruits l'attitude de cœur qui convient à celui qui veut recevoir à profit la parole de Jésus et ainsi avoir part à son royaume. Il décrit cette attitude de cœur par ses fruits. Jésus sous-entend ici qu'il y a deux façons d'accueillir sa parole. D'une part, la sincérité et la contrition. D'autre part, l'hypocrisie et l'orgueil. D'une part, la sincérité et la contrition. D'autre part, l'hypocrisie et l'orgueil. Et donc, si on passe en revue un peu ce qu'il dit ici, versets 1 à 12, contrairement au cœur hypocrite et orgueilleux, le cœur sincère et contrit, lui, ne remarque pas la paille qui est dans l'œil de son voisin et se préoccupe plutôt de la poutre qui est dans son œil à lui. hein, versets 1 à 5. Le cœur sincère et contrit reçoit ce qui est saint et ne le foule pas aux pieds comme un chien ou comme un pourceau dont il est question juste dans ce verset 6. C'est-à-dire que contrairement au cœur hypocrite et orgueilleux, celui qui a le cœur sincère et contrit, lui, il a conscience, il reçoit la parole de Jésus avec gratitude et il accepte de s'y fier, de s'y soumettre. Il ne se retourne pas ensuite pour déchirer. Contrairement au cœur hypocrite et orgueilleux, le cœur sincère et contrit a conscience de sa faiblesse. Il a conscience qu'il ne mérite pas sa place dans le royaume des cieux. Ça, c'est un thème qu'on a déjà abordé, qu'on a déjà relevé dans ce sermon de Jésus sur la montagne. Mais celui qui a le cœur contrit et sincère et contrit, qui se rend compte qu'il n'a pas sa place par nature dans le royaume des cieux, alors lui, il se tourne vers le Père céleste, qu'il sait plein de bonté et de miséricorde, et il lui demande sa grâce et son aide. Il frappe, il demande, il cherche. Et il trouve, puisque Dieu est plein de grâce et de bonté. Le cœur sincère et contrit, enfin, verset 12, n'est pas centré sur lui-même et sur ses propres intérêts, mais il est résolument tourné vers les autres, vers autrui. C'est un cœur débonnaire, pour employer un terme un peu désuet, mais je n'ai pas trouvé mieux. C'est un cœur débonnaire, un cœur paisible, un cœur bon, bienveillant. Et ce renoncement à soi, c'est, dit Jésus, la loi et les prophètes. C'est le gars qui a tout compris. S'il est débonnaire, s'il a ce cœur contrit et sincère, et s'il n'est pas tourné sur lui-même et vers ses propres intérêts, mais plutôt vers l'intérêt d'autrui. Il a tout compris à la loi et les prophètes, dit Jésus. Et donc c'est à cette attitude de cœur que Jésus va amener son auditoire ici, chapitre 7, dans un premier temps, au moment où il va conclure son discours, et il veut l'amener à cette attitude de cœur, son auditoire, pour lui faire comprendre comment entrer effectivement dans le royaume des cieux et avoir part à tous ses bienfaits. L'enseignement de la Bible, je le disais, est bien accueilli quand il est accueilli par un cœur sincère et contrit. Imaginez deux frères, deux jeunes frères, qui, le matin de Noël, reçoivent chacun un cadeau de la part de leurs parents. L'un reçoit une maquette de voiture de course à assembler soi-même, et l'autre une maquette d'avion de guerre à assembler soi-même. Celui qui a reçu la voiture de course commence immédiatement à se vanter d'avoir reçu le meilleur cadeau des deux. Il n'a aucun signe de gratitude envers ses parents. Il va assembler sa maquette tout seul et montrer à tout le monde comme il est fort et intelligent. Et surtout, il prévient tous les membres de sa famille qu'ils n'ont pas intérêt à toucher son cadeau. Son frère, quant à lui, en découvrant l'avion de guerre que ses parents lui ont offert, pose immédiatement le cadeau par terre, se précipite vers ses parents pour les remercier. Il félicite même son frère pour le beau cadeau qu'il a reçu lui aussi, en lui disant que s'il le veut, il pourra jouer avec son avion. Et il demande humblement à son papa de bien vouloir l'aider à assembler la maquette, puisqu'il ne l'a jamais fait avant et qu'il ne s'en sent pas capable. Alors, j'ai pas besoin de vous dire lequel des deux frères est un chien et un pourceau, et lequel a accueilli le cadeau de ses parents avec un cœur sincère et contrit. Et de la même façon, comment réagissez-vous à la parole de Jésus? Plus largement et par extension, comment réagissez-vous aux enseignements de la Bible, sachant que toute la Bible est parole de Jésus? Est-ce que vous les recevez, ces enseignements, comme autant de munitions pour attaquer vos amis ou vos frères qui ne croient pas comme vous? Est-ce que vous opposez à ces enseignements un esprit critique, en vous disant que sur tel ou tel point, franchement, Jésus et les apôtres étaient un peu naïfs, ou un peu ignorants? Et de nos jours, on sait mieux. Est-ce que vous vous désintéressez, tout simplement, de ces enseignements de la Bible, en vous disant que vous avez déjà réfléchi à toutes ces questions vous-même et vous avez déjà trouvé vos réponses? Alors vous voyez, ce sont là quelques symptômes d'un cœur en fait hypocrite et orgueilleux. Et ce n'est pas la vraie foi. Ce n'est pas la vraie foi. Ce n'est pas comme ça qu'on entre réellement et effectivement dans le royaume de Jésus. Ce n'est pas comme ça qu'on a part à tous les bienfaits du royaume. L'enseignement de la Bible est bien accueilli quand il est accueilli par un cœur sincère et contrit. Ce cœur sincère et contrit a conscience de sa propre misère. Il a conscience de ses propres limites, de sa faiblesse, de sa culpabilité, pas de celle des autres. Le cœur sincère et contrit est reconnaissant que Dieu ait bien voulu se révéler aux hommes et venir à leur secours dans leur faiblesse. Le cœur sincère et contrit baisse la tête, se frappe la poitrine et supplie Dieu d'avoir pitié de lui. comme le publicain dans l'histoire que Jésus raconte, qui nous a été lue tout à l'heure. Et par conséquent, le cœur sincère et contrit n'est pas nonchalant, il n'est pas désinvolte ou snob vis-à-vis de la Bible. Au contraire, il est très attentif à ce que Dieu veut lui faire comprendre au moyen des saintes Écritures. Et c'est ça en fait qui nous amène au deuxième point. En effet, la deuxième chose qu'on est amené à comprendre à travers ce passage, c'est que l'enseignement de la Bible est bien accueilli quand on lui accorde une attention suprême et vigilante. Quand on lui accorde une attention suprême et vigilante. Et en fait, au verset 13 à 20, la suite donc du passage ici, Jésus fait comprendre à son auditoire qu'il existe une rivalité entre son message et d'autres messages. Son message à lui, à Jésus, c'est le bon message. C'est celui qui permet d'entrer dans le royaume des cieux. Mais les messages contraires, qui mènent d'après Jésus à la perdition, c'est-à-dire qui ne mènent pas à Dieu, ni à son royaume, ces messages contraires sont si nombreux, ou alors c'est qu'ils se font entendre si fort, que le message à Jésus, lui, il apparaît comme une il est comme une porte étroite, ou un chemin resserré en comparaison avec ses autres messages, qui sont contraires au sien. À celui de Jésus. C'est Jésus qui le dit, versets 13 et 14. Hein. Et en plus, il existe, c'est Jésus qui rajoute ça, en plus il existe des faux prophètes, c'est-à-dire des gens qui se présentent comme ayant été envoyés par Dieu, par le vrai Dieu, le Dieu de Jésus, le Dieu de la Bible, ils se présentent comme ça, mais en son nom, ces faux prophètes, ces gens-là dont Jésus parle, vont annoncer un message contraire à celui de Jésus et de la Bible. Ces faux prophètes sont attirants, ils sont séduisants. Mais en réalité, ce sont des loups ravisseurs. Ils sont déguisés en brebis, c'est tout mignon. Mais ce sont des loups ravisseurs, dit Jésus. Leur message est un piège qui détourne du royaume. Ces faux prophètes existent, dit Jésus. Et donc, il faut être vigilant, il faut les éprouver, ces gens qui prétendent enseigner de la part de Dieu. Il faut examiner notamment le fruit de leur service, le fruit de leur travail. C'est ce qu'il dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. La vraie foi, donc, dit Jésus, ne croit pas n'importe quoi. La vraie foi ne croit pas n'importe quoi. La vraie foi n'est pas naïve. Elle n'est pas crédule. La vraie foi, on l'a dit, porte ses fruits dans notre cœur, mais elle porte aussi ses fruits dans notre croyance, dans ce que nous croyons. Jésus veut donc que nous accueillions son message, on l'a dit, avec un cœur sincère et contrit, mais aussi avec une attention suprême et vigilante. Parce que le message de Jésus, le message de la Bible, est un message précis, clairement délimité. C'est le message de notre salut et de notre entrée dans le royaume. Vous pensez que c'est important? On ne peut pas se permettre de se tromper là-dessus, n'est-ce pas? C'est comme si vous jouiez à « Qui veut gagner des millions ?» Vous connaissez ce jeu télévisé ?« Qui veut gagner des millions ?» Vous arrivez à la question à 1 million d'euros, la dernière question du jeu. Et il vous reste encore 2 jokers. Vous pouvez passer un coup de fil à un ami et vous pouvez solliciter le vote du public. Le présentateur vous pose la question, c'est une question très difficile bien sûr, c'est une question qui vaut 1 million d'euros, mais il se trouve que ça entre pile dans votre domaine de compétence. Et vous savez quelle est la bonne réponse. Mais le présentateur qui joue bien son rôle, qui fait bien son métier, il arrive à vous mettre subtilement le doute dans l'esprit. Vous savez comment ça se passe. Et alors, il vous convainc d'utiliser vos jokers. De toute façon, comme c'est la dernière question, il vous reste 2 jokers, pourquoi pas les utiliser? Vous n'allez pas les utiliser plus tard, c'est la dernière question. Alors, vous appelez un ami. Et avec beaucoup de conviction, il vous donne une réponse autre que celle que vous pensiez. Aïe! Alors, vous sollicitez le public, vous le faites voter. Et là, l'immense majorité vote pour la même réponse que celle de votre ami. Aïe, cette fois, le doute s'est solidement installé. Et vous êtes très partagé entre ce que vous pensiez être vrai et maintenant l'opinion écrasante de la majorité. Vous avez un choix à faire. Sous les feux de la rampe, à la télé, aux yeux de tous, qu'est-ce que vous faites maintenant? Sachant que si vous répondez mal, vous perdez pratiquement tout l'argent que vous avez accumulé jusque-là dans le jeu. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous tromper. C'est un peu pareil, c'est pire même, avec les enseignements de la Bible. parce que les enseignements de la Bible nous communiquent un message qui est vrai et précis, mais c'est rarement l'opinion de la majorité qui nous entoure. Saviez-vous que même l'église protestante la plus grande des États-Unis, avec plus de 43 000 personnes chaque semaine dans cette église qui fréquente le culte, l'église protestante la plus grande des États-Unis ne prêche pas le vrai message de l'évangile, mais prêche un évangile dit de prospérité, d'après lequel, pour faire simple, si je peux faire simple, Jésus serait mort pour que nous soyons ici-bas riches et en bonne santé. Ce n'est pas le message de la Bible. Mais si vous vous dites, je vais m'intéresser aux protestants, et je vais aller au pays des chrétiens, aux États-Unis, et pour être sûr, je vais aller dans la plus grande église, juste pour être sûr de ce que la Bible enseigne, eh bien, vous ne seriez pas un message fidèle à la Bible. Pas fidèle au message de Jésus. Comment savoir si un message est fidèle ou pas? Eh bien, bien sûr, en éprouvant ce message, en éprouvant le fruit du ministère de ces pseudo-prophètes à la lumière de l'Écriture sainte. C'est ce qu'il faut faire avec tous les messages que vous recevez, au travail ou à la maison, à la télé ou sur Internet, à l'école ou à l'église. Tout éprouver à la lumière de l'Écriture sainte, y compris ce que je suis moi-même en train de vous dire maintenant, et y compris tout ce que vous entendez ici même, dimanche après dimanche. Vous n'avez pas le droit de nous croire sur parole. Vous devez croire Dieu en fonction de ce que lui dit dans les Saintes Écritures. L'enseignement de la Bible est bien accueilli quand on lui accorde une attention suprême et vigilante. Suprême et vigilante. Parce qu'on ne peut pas se permettre de se tromper. La vraie foi écoute attentivement. Elle éprouve ce qu'elle entend à l'aune de ce que Dieu a déjà révélé. Donc venez à l'église chaque dimanche avec votre Bible si vous en avez une. Prenez-en une dès que vous entrez sur les étagères à l'entrée. Suivez les lectures bibliques qu'on fait au cours du culte. Gardez votre Bible ouverte pendant la prédication. Demandez des comptes même à votre pasteur sur la façon dont il a exposé ou non le message du texte biblique. Étudiez-la vous-même la Bible tout au long de la semaine. Et lorsque vous entendez un message nouveau à l'école, au travail, à la télé, à la radio ou dans l'église, même si ce message est majoritaire, éprouvez-le. C'est à ses fruits qu'on reconnaît l'arbre. Donc ce que dit Dieu compte plus que ce que dit la majorité. Ça va? Vous êtes d'accord avec ça, j'espère? Ce que dit Dieu compte plus que ce que dit la majorité. C'est la porte étroite, certes, mais c'est la porte du royaume. C'est le chemin resserré, oui, mais c'est le chemin du salut. Et je vais être encore plus clair encore. Vous ne pouvez pas être sauvé si vous rejetez le message de la Bible au profit d'un autre message qui serait plus séduisant. C'est aussi simple que ça. Le message de Jésus et de toute la Bible est un message exclusif parce que le moyen du salut des hommes est un moyen exclusif. « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie », a dit Jésus. « Nul ne vient au Père que par moi. » C'est clair, encore une fois, ce n'est pas un de ces passages difficiles à comprendre. Hein. C'est un passage clair. Et la Bible nous explique que Jésus a ouvert cet accès à Dieu, cet accès à son royaume. Il l'a ouvert par sa propre mort sur la croix, où il a pris sur lui le poids de nos fautes pour nous en délivrer. Il a ouvert ce chemin, non seulement par sa mort sur la croix, mais aussi par sa résurrection, par le fait qu'il est sorti vivant et triomphant du tombeau vide, en vainqueur sur le mal et sur la mort et sur toute puissance hostile à Dieu et aux croyants. Il n'y a que Jésus qui a fait ça. Il n'y a que la Bible qui nous l'explique. C'est ce qui fait dire à l'apôtre Pierre, « Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Le salut ne se trouve en aucun autre. Vous ne pouvez donc pas vous permettre de négliger ce message. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous en désintéresser, voire pire, de le rejeter au profit d'un autre message. Sachez donc ce qu'enseigne la Bible. Sachez ce qu'enseigne la Bible, mais le savoir ne le suffit pas. Il faut encore accepter de s'y fier et de s'y soumettre. C'est ça qui nous amène au dernier point. En effet, la troisième et dernière chose ici, dans le texte qu'on a lu, troisième et dernière chose que le texte nous fait comprendre, c'est que l'enseignement de la Bible est bien accueilli quand il est mis en pratique. Ça peut paraître évident, mais regardez quand même ce que dit Jésus à partir du verset 21. Dans ses dernières paroles, c'est vraiment là la conclusion. Après, c'est la fin de son serment sur la montagne. Dans cette conclusion, il oppose deux types de personnes. Les deux, dans les deux cas, ont une relation à Jésus. Les deux professent un genre de foi en Jésus. Les deux ont entendu les enseignements de Jésus. Les deux agissent même au nom de Jésus. Mais les uns sont perdus, tandis que les autres sont sauvés. Les uns sont dans le royaume, tandis que les autres sont privés du royaume. La différence entre les deux, c'est que ceux qui sont sauvés, dit Jésus, ont fait la volonté du Père qui est dans les cieux. Et ils l'ont fait en mettant en pratique les paroles de Jésus. Jésus, il n'est pas en train de dire ici qu'il faut faire le bien pour mériter d'être sauvé. D'accord ? Il n'est pas en train de dire qu'il faut faire le bien pour mériter d'être sauvé. Puisque d'ailleurs, les autres, dans ce cas, ont aussi fait le bien. Ils ont exorcisé des gens qui étaient possédés par des démons, ils ont fait des miracles, ils ont sûrement guéri des malades, ils ont fait le bien. Ce que Jésus est en train de dire, en revanche, c'est que si on comprend bien son message, si on croit vraiment son message, alors cela engage logiquement et fondamentalement toute notre vie. Si on comprend bien et qu'on croit vraiment, c'est inévitable. Ça engage toute la vie. Dans la métaphore de Jésus, à la fin, qui est connue, entre les deux personnes qui construisent leur maison, l'un sur le roc, l'autre sur le sable, dans ces deux cas, ce n'est pas la maison qui est différente. La maison, c'est peut-être la même, les mêmes plans. Sauf que ce qui est différent entre les deux, c'est quoi ? C'est le fondement. C'est le fondement. L'un a construit sur le roc, l'autre a construit sur le sable. Faire la volonté du Père, mettre en pratique la parole de Jésus, consiste donc essentiellement à construire sa vie sur un fondement différent. Ce que Jésus nous fait comprendre, c'est que ce fondement qui change tout à la fin, ce n'est pas une profession de foi chrétienne. Ce n'est pas juste de se dire chrétien, d'accord ? Ce n'est pas une profession de foi apparente. Ce n'est pas juste d'assister régulièrement au culte. Ce n'est pas juste d'être né dans une famille chrétienne. Ce n'est pas juste d'être engagé dans un service dans l'église. Ce n'est pas même d'être capable de chasser des démons ou de faire des miracles ou de prêcher des sermons. Je ne sais pas moi, ou de jouer du violon. Le fondement qui assure notre sécurité éternelle. C'est une soumission humble et totale à Jésus. C'est Jésus le fondement. C'est Jésus le roc. Quand on choisit de construire sa maison sur ce fondement, on est en fait, en réalité, en train de nous soumettre et de nous fier entièrement à Jésus. On fait reposer tout l'édifice sur lui. C'est comme si vous montez une équipe de foot dans l'espoir de gagner la Coupe du Monde. Vous savez qu'il y aurait des illustrations qui toucheraient à la Coupe du Monde, n'est-ce pas ? Le talent individuel des joueurs, leur motivation, leur santé physique, tout ça, c'est important. C'est sûrement utile, mais c'est quand même moins important et moins fondamental que leur soumission humble et totale à l'entraîneur. Si chacun fait ce qu'il veut sur le terrain de foot, il a beau être talentueux, il n'y arrivera pas. L'équipe ne gagnera pas. Alors, entre l'équipe de France d'il y a 4 ans et celle d'aujourd'hui, on a beaucoup de joueurs qui sont les mêmes, avec les mêmes qualités techniques, la même connaissance du football, la même couleur du maillot. Mais si j'ose le rapprochement, le fondement n'est pas le même par rapport à 2010. Pour ceux qui suivent un peu le foot, vous savez de quoi je parle. Il y a, semble-t-il, une meilleure loyauté à l'entraîneur, et on a bien l'impression pour l'instant que cela se voit, même dans les résultats. Pardon pour cette comparaison. Mais vous voyez que notre loyauté fondamentale à Jésus est plus importante que nos actes, y compris les actes que nous pourrions faire en son nom, y compris, dans ce texte, des miracles. En même temps, la vraie loyauté à Jésus, la vraie confiance, la vraie soumission se manifeste aussi par des actes. Mais dans ce cas, ces actes sont les vrais fruits de la vraie foi. Et ça soulève une question qui est adressée à tout le monde, mais particulièrement à ceux qui sont en lien avec l'Église de Jésus-Christ, donc à vous. parce qu'inévitablement aujourd'hui vous êtes en lien avec l'Église de Jésus-Christ par votre simple présence ici. Sur quel fondement construisez-vous votre vie? Votre vie a peut-être l'air pas si mal, hein. Vous êtes quelqu'un de gentil, de généreux, d'honnête, vous réussissez assez bien à l'école, au travail, vous êtes plutôt en bonne santé. Peut-être même que vous cherchez à vivre selon la morale biblique, parce que vous dites, elle est bien cette morale biblique. Tant mieux pour vous. Sauf que d'après Jésus, tout ça, ça peut aussi bien être érigé sur un mauvais fondement, qui ne résistera pas. Au jour du jugement, où le livre de votre vie sera ouvert et où vous devrez rendre compte à Dieu de la façon dont vous avez accueilli le message et l'œuvre de Jésus. Vous voyez, l'enseignement de la Bible est bien accueilli quand il est mis en pratique. Et mettre en pratique l'enseignement de la Bible, ça consiste d'abord à reconnaître qu'on est fautif aux yeux de Dieu, d'avoir enfreint ses lois. Ça consiste à reconnaître qu'on est incapable d'acquérir son propre pardon. Ça consiste à demander pardon à Dieu et à placer sa confiance en lui sur la base des promesses de grâce que Dieu a faites et qu'il a réalisées d'ailleurs par la venue de Jésus et par son œuvre, sa mort et sa résurrection. Mettre en pratique l'enseignement de la Bible, ça consiste à faire pleinement confiance à Jésus et à lui soumettre notre vie, sachant qu'il est un maître bienveillant et que s'il est mort pour nous, c'est pas pour ensuite nous tyranniser et nous faire du mal. S'il est mort pour nous, c'est pour ensuite nous faire du bien. C'est pour nous faire porter du fruit, du beau fruit, le vrai fruit de la vraie foi et nous le faire porter à la gloire de Dieu par la puissance de son esprit qu'il est disposé à déverser en nous de façon abondante et généreuse. Mettre en pratique l'enseignement de la Bible, ça consiste en effet à faire pleinement confiance à Jésus et à lui faire tellement confiance que non seulement on reçoit de sa main le salut qu'il nous offre, mais aussi on accepte qu'il transforme notre vie et qu'il le fasse, oui, par le moyen des enseignements de sa parole, par le moyen de sa morale, si j'ose dire, et sous l'effet du Saint-Esprit qu'il a déversé dans notre vie. Donc j'en reviens à la question que je posais au début. Est-ce qu'il y a une bonne façon d'accueillir les enseignements de la Bible? Est-ce qu'il y a une bonne façon d'accueillir les enseignements de la Bible? Et si oui, est-ce que c'est ainsi que vous l'accueillez? Que vous les accueillez, ces enseignements? Donc on a vu que Jésus arrivait ici à la fin de son fameux sermon sur la montagne, ou plutôt son sermon sur le royaume, et qu'il voulait maintenant, avant de terminer, il voulait finalement répondre à la question que tout auditeur attentif aurait été en train de se poser à ce moment-là. Mais comment alors? Comment, Maître Jésus? Comment entrer dans le royaume des cieux et avoir part à tous ses bienfaits? La conclusion du chapitre laisse d'ailleurs, vous l'avez remarqué, versets 28-29, laisse entendre que les gens qui entendaient Jésus, qui ont écouté peut-être ce sermon sur la montagne, ont été frappés de son enseignement. Ils étaient interpellés, perturbés, troublés. Ils voulaient en savoir davantage. Alors Jésus leur fait comprendre ici comment accueillir ces paroles. Et on a pu en tirer cette leçon. Tout le monde peut entendre les enseignements de la Bible. Mais seuls les gens qui les accueillent avec une vraie foi en reçoivent en fin de compte tous les bienfaits. Cette vraie foi nous a été décrite ici par ses fruits qui se manifestent dans notre cœur, dans notre croyance et dans notre conduite, c'est-à-dire dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on croit et dans ce qu'on fait. C'est-à-dire, ça c'est pour ceux qui aiment le grec et l'étymologie, la vraie foi implique l'orthopathie, l'orthodoxie et l'orthopraxie. D'accord? C'est ainsi que les enseignements de la Bible peuvent en réalité produire leur effet salutaire qui consiste à assurer à leur destinataire une place dans le royaume. C'est quand ces enseignements sont accueillis, on l'a dit, avec un cœur sincère et contrit, quand on leur accorde une attention suprême et vigilante et quand ils sont mis en pratique. Pour conclure, voilà ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il fait référence au peuple d'Israël qui a été au bénéfice de la grâce de Dieu, de certaines grâces de Dieu en tout cas, dans leur histoire, mais qui a été incrédule, et voici l'explication qu'il donne. La bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Je vous le donne dans le mille, c'est quoi le terme en grec pour bonne nouvelle? L'évangile, bien sûr. Nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. Amen.